Chers amis, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ils se sont laissés surprendre par la rentrée assez cachée, occulte, même, de catéchèse. Vous n'avez pas loupé grand-chose, puisque ce n'était qu'une introduction. Voilà. Nous allons, dès ce soir, entrer dans le dur, comme on dit, puisque nous étudions cette année, enfin, nous essayons de scruter un peu le mystère de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Tout Seigneur, tout honneur, nous allons commencer par ceux qui ont été l'entourage direct de celui-ci lorsqu'il a vécu sur terre, du moins pendant sa vie publique, c'est-à-dire les apôtres et les disciples, et puis leurs disciples immédiats, qui, parmi lesquels certains ont contribué à la rédaction du Nouveau Testament. J'ai dit la dernière fois le privilège qui avait été le leur, de jeter pour la première fois un regard naïf, j'allais dire, un regard pur de tout préconçu, à la différence de nous. C'est la première fois, par définition, que le Verbe de Dieu s'incarnait, la première fois que Dieu se manifestait de manière tangible, visible, audible. Et ils en ont évidemment gardé une impression extrêmement puissante, et ils ont cueilli auprès de lui de quoi nous enseigner, nous autres, à travers les siècles, en couchant par écrit la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. J'ai donc insisté sur la valeur inestimable que revêt le Nouveau Testament. Je vous ai dit que, malheureusement, je n'aurais pas le temps d'aller plonger dans l'Ancien Testament. Dieu sait qu'il y aurait à dire quant aux prémices de la révélation du Christ et de son incarnation. Je n'ai pas le temps. Je m'en tiens aux témoins directs ou à leurs disciples immédiats, encore une fois. Et alors, je laisse de côté, par défaut de temps, les arguments qui permettent d'attester de la crédibilité de tout ce qui est contenu dans le Nouveau Testament. Et je le fais vraiment à mon corps défendant, parce que c'est une question qui est très débattue depuis deux siècles. On ne cesse de s'acharner sur l'authenticité de ces écrits, sur la crédibilité. Voilà, on y voit, en somme, une sorte de mythe post-pascal, voilà, alors un mythe collectif, ou je ne sais pas, une illumination collective, je ne sais pas comment la qualifier. En tout cas, il n'y aurait aucun fondement historique avéré dans tout ce qui est raconté là. Ces types étaient totalement acquis à la cause de Jésus, pour lequel d'ailleurs, fous qu'ils étaient, ils ont offert leur vie. Donc, fermez le banc, quoi. Alors, figurez-vous que l'Église, depuis deux siècles et plus encore, travaille par un travail d'apologétique, justement, à étayer, à montrer, à démontrer la crédibilité très rare de ce témoignage-là qui est recueilli dans le Nouveau Testament. Et il s'avère que presque aucun autre écrit de la même époque, de l'Antiquité, ne tient la compétition quant à la solidité de ce qui y est raconté. Et peut-être que certains d'entre vous seraient intéressés par cette question. C'est pourquoi je vais mettre sur le site internet de la paroisse, l'onglet catéchèse de cette année, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, en annexe de cette deuxième séance, tout un développement sur les arguments de crédibilité. Je crois que c'est intéressant d'aller y puiser. Saint-Pierre nous demande de répondre de la foi qui nous anime. Eh bien, on répond évidemment d'abord par son propre comportement chrétien, par un témoignage catéchétique, mais aussi, déjà, par des arguments de raison. Voilà. Alors j'en viens, sans plus attendre, au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les données essentielles que contient le Nouveau Testament au sujet de Jésus-Christ. Pour commencer, je vous cite un passage qui est emblématique de l'Évangile selon saint Jean. La citation est un peu longue, mais elle vaut vraiment d'être faite. Il s'agit de l'appel des premiers disciples. Vous allez voir en quoi cela regarde de près le thème de ce soir. Nous sommes au chapitre 1er, versets 35 et suivants. Le lendemain, Jean se tenait là, il s'agit du Baptiste, hein, de nouveau, avec deux de ses disciples. La veille, il rencontrait son cousin, le Seigneur, et le baptisait. Regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils vinrent donc, ils virent où ils demeuraient, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit « Nous l'avons trouvé, le Messie », ce qui veut dire « Christ ». Il l'amena à Jésus, Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire « Pierre ». Le lendemain, il résolut de partir pour la Galilée et il trouve Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit « De Nazareth, que peut-il sortir de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir vers lui et il lui dit « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu ?» Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Fin de citation, longue citation. Je vois que vos yeux sont toujours ouverts. Très bien. Saint Jean vous a donc tenu en éveil. J'en suis fort aise. En réalité, nous, ce qui est remarquable, c'est que dans ce texte, qui est un peu long à lire, mais qui somme toute est très bref par rapport au long évangile de Saint Jean, eh bien, apparaissent la plupart des titres sous lesquels est désigné Jésus dans tout le Nouveau Testament. C'est vraiment un texte crucial en matière de christologie, cette science, cette connaissance de Jésus-Christ. J'en reprends l'essentiel en détaillant, peut-être en expliquant, même si la plupart d'entre eux n'ont pas de secret pour vous, qui êtes des exégètes chevronnés, des théologiens de premier clan. D'abord, j'y reprends dans l'ordre d'apparition, on nous parle de l'agneau de Dieu, c'est ainsi que Jean le Baptiste désigne son cousin. L'agneau, ça sous-entend qu'il y a là une victime sans tache, hein, c'est une figure récurrente de l'Ancien Testament. L'agneau sans tache, c'est évidemment celui qui est offert à Elohim, à Adonai, à Dieu, au temple, pour le bien de son peuple, pour la rémission des péchés de son peuple. On a là de manière voilée, notez-le, une allusion à une autre figure sacrificielle de l'Ancien Testament, le serviteur souffrant, qu'on trouve sous la plume du prophète Isaïe. Et donc, d'emblée, Jésus est présenté par son cousin comme celui qui va s'offrir en sacrifice, celui qui va servir le bien de son peuple. Deuxième titre, Rabbi. Rabbi, ce qui veut dire maître, on nous traduit parce qu'on n'est apparemment pas très versé dans ce... Pourtant, c'est ce qui veut dire Rabbi. Alors ça, c'est le moindre, c'est le plus petit des titres de Jésus qui indique simplement qu'on lui reconnaît une vraie sagesse religieuse à l'instar de tous les rabbins, de tous ceux qui sont autorisés à prendre la parole dans la synagogue pour lire et commenter les Saintes Écritures. Vient ensuite le terme de Messie, autrement glorieux. Vous savez que l'araméen « Messia » désigne, que l'on traduit en grec par « Christos », désigne celui qui a reçu l'onction. Alors, l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus, j'avais expliqué que dans le judaïsme de l'Ancien Testament, qui a eu cours donc jusqu'à la fin de la vie publique de Jésus, en fait, ce terme de « Messia », Messie, celui qui a reçu l'onction, désignait ceux qui, au sein du peuple élu, avaient un rôle prééminent. Les rois, les prêtres, le grand prêtre, et certains prophètes. On leur faisait une onction en public devant le peuple d'Israël, solennellement, c'est en général un prophète qui appliquait l'onction, pour bien montrer corporellement, visuellement au peuple, que ces personnes faisaient l'objet d'une élection de la part de Dieu. Et qu'à ce titre, jouissant d'une bénédiction particulière, d'une assistance divine, ils étaient autorisés à exercer les tâches principales d'enseignement, de conduite et de liturgie au sein du peuple élu. Mais au fil des siècles qui ont précédé la venue de Jésus-Christ, le terme Messie en est venu à désigner, ce que nous connaissons par ailleurs, le restaurateur de la dynastie davidique. Mais il ne faut pas se tromper. Sous la plume des prophètes, ce n'est pas le type qui va revenir à l'état immédiatement antérieur à la chute de la royauté. C'est quelqu'un qui va amener cette royauté à un degré suréminent. Et cette royauté, sous la houlette du Messie, sera distinguée de tout autre roi antécédent par le fait qu'elle durera éternellement. C'est tout de même un type un peu particulier, si vous voulez, de roi. Voilà. Le Messie. Jésus, donc, agneau de Dieu, rabbi, Messie. Je descends encore un petit peu dans le texte. Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes. Alors, Moïse et les prophètes annoncent, nous savons, la venue d'un sauveur. Pas tant la venue d'un Messie, mais la venue d'un sauveur dont la nature exacte leur est encore inconnue, à eux, Moïse et les prophètes. Ils sont saisis par l'Esprit Saint, si vous voulez, et ils rendent un oracle, pourrait-on dire, sans savoir exactement la teneur exacte de leurs affirmations. Dieu va envoyer un sauveur, susciter un sauveur. Voilà. C'est cette autre chose, c'est pas exactement la même chose que le Messie. Un pas de plus, Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Ça, c'est le pédigré humain du Christ, accessible en son temps à tout un chacun. Tout le monde savait qu'il s'agissait là, à commencer par ceux de son clan, qu'il avait vu depuis le plus jeune âge grandir lors de sa vie cachée parmi eux, à Nazareth, apprendre son métier de Joseph après avoir appris à marcher, etc., à l'école de ce père singulier. Voilà. Le fait que Jésus soit fils de Joseph, sous la plume de Saint Jean, n'implique pas qu'il soit le fils selon la chair du même Joseph. Mais évidemment, pour les contemporains du Christ, il était le fils de l'union nuptiale, de l'union physique de Joseph et de Marie. Un homme comme tout un chacun. Un peu particulier tout de même, voilà. Pourquoi Saint Jean insiste sur ce pédigré humain du Christ, pour montrer que, certes, il est le Messie, certes, il est l'agneau de Dieu, etc., mais il n'empêche que c'est bien un être humain, en chair et en os, qui a une filiation humaine. Un pas de plus encore, le Fils de Dieu. C'est ainsi que l'un des disciples l'appelle. Alors, dans l'Ancien Testament, cette expression « Fils de Dieu » avait une acception très large. Là encore, j'en ai parlé une des années antécédentes, on désignait par fils de Dieu tantôt le roi, tantôt les anges, tantôt le peuple d'Israël pris dans son ensemble. C'est un être, ou c'est un ensemble, c'est une communauté d'êtres qui ont une relation très intime, qui font l'objet d'une prédilection de la part de Dieu, d'un choix. Et on confondait souvent fils de Dieu et Messia, le Messie. Mais dans la bouche de Nathanaël, puisque c'est lui qui le qualifie de fils de Dieu, après s'être rendu compte de son erreur, de ce mépris dans lequel il tenait les ressortissants de Nazareth, hein, de Nazareth que peut-il sortir de bon, le pauvre, c'est la phrase la plus connue de lui depuis lors, ça fait vraiment de lui quelqu'un d'un peu mal dégrossi, et on en vient à oublier qu'il a aussi qualifié, et dès le début de sa vie apostolique, Jésus le fils de Dieu. Dans sa bouche, fils de Dieu dit bien plus que ce qu'entend par cette expression l'Ancien Testament. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a fait l'objet d'une prédilection divine, qui a une intimité avec lui. Non, c'est bien le fils au sens strict, au sens propre. Et d'ailleurs, Jésus confirme que Nathanaël emploie cette expression dans un sens dans un sens unique, le fait qu'il s'agisse bien de la proclamation de la filiation divine de Jésus, lorsqu'il lui dit que c'est la foi qui lui a fait dire cela. Parce que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu as la foi. Ce don surnaturel qui fait que derrière l'humanité de Jésus, Nathanaël est en mesure de discerner, plus que l'humanité, véritablement sa filiation divine. Alors il faudra qu'ensuite, il passe par des hauts et des bas, des doutes et des relèvements, évidemment, pour acquiescer définitivement à ce qui, pour l'heure, est encore un peu superficiel dans son intelligence et dans sa bouche. Fils de Dieu, donc. Je vous ferai remarquer que c'est le même phénomène qui se produit au moment de la confession de foi de Pierre, que j'ai évoquée la dernière fois, à Césarée de Philippe, aux sources du Jourdain, lorsque j'ai dit, au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme, etc. Et vous, pour vous, qui suis-je ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre n'a probablement pas tout compris de cette affirmation qui est sortie de sa bouche, et sans doute en a-t-il été lui-même surpris. Pourtant, Jésus dit qu'il y a là une proclamation de foi. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont dit cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, etc. Bon, vous connaissez la suite. Donc, fils de Dieu. Et puis, une dernière expression qui apparaît, un dernier titre qui apparaît dans ce court passage de l'appel des disciples chez Saint Jean, c'est l'expression de fils de l'homme. Là aussi, je pense que vous êtes coutumier de cette expression parce qu'elle revient sans cesse dans la bouche de Jésus lui-même. C'est même l'expression qu'il utilise la plus couramment pour se désigner lui-même. Il ne se désigne pas fils de Dieu, il se désigne fils de l'homme. Alors le fils de l'homme, dans l'Ancien Testament, la plupart du temps est employé pour désigner le fils d'homme, le bout de chou, quoi. Celui qui est issu d'un homme. Le fils d'Adam, l'être humain, fragile, versatile, voilà, parfois même pécheur, et que Dieu condescend à aider, à soigner, à sauver. Vous voyez, fils de l'homme, c'est ça, au début, dans l'Ancien Testament. Et puis progressivement, au fil des siècles, dans ce même Ancien Testament, l'expression fils de l'homme prend une acception plus restrictive, plus singulière, puisqu'elle désigne sous la plume de Daniel, par exemple. Vous savez, cette vision qu'a Daniel. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur les nuées vint comme un fils de l'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, mot aimable pour désigner le Très-Haut, et qui est repris dans l'Apocalypse, hein, parce que Jean est un lecteur assidu de Daniel, et on le fit approcher devant lui. Et il lui fut donné, écoutez bien, domination, gloire et règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel au chapitre 7e. On voit bien que là, le fils de l'homme prend un relief qui n'a rien à voir avec fils d'Adam, petit être un peu animal, mêlé d'intelligence plus ou moins, qui est blessé et qu'il faut sauver. Là, on a vraiment un être majestueux qui vient directement des nuées d'en haut. On ne sait pas très bien quelle est son origine, probablement divine, à qui toute domination et tout empire est donné. Vous voyez, c'est quelque chose quand même de très hiératique, de très noble. Eh bien, c'est dans ce sens-là, évidemment, que Jésus emploie à la fin du passage de Jean par lequel j'ai commencé, cette expression « fils de l'homme ». « Amen, je te le dis ». Où je vous le dis, parce que là il s'adresse à tous ses disciples, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le fait que les anges montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme montre qu'ils lui sont relatifs, qu'il a une prééminence, ce fameux Fils de l'homme, jusque sur les anges. C'est vous dire que, décidément, il ne s'agit pas seulement d'un fils d'Adam. Vous voyez, alors j'espère ne pas avoir été trop rébarbatif avec cette énumération, mais c'était pour vous faire saisir, en vous rappelant des choses que probablement vous saviez pour une grande part, ce bombardement de titres qui sont accordés d'emblée dans l'évangile de Jean, nous sommes au chapitre 1er, je vous le rappelle, à l'égard de Jésus. Et alors ce qui est tout à fait frappant, c'est que dans ce passage-là de l'appel des premiers disciples, on voit que chaque disciple est sensible à tel ou tel titre, à telle ou telle facette du mystère du Christ, et se met à la suite de Jésus pour un motif différent de son voisin, pour un titre différent. Les deux premiers apôtres, qui étaient les disciples de Jean le Baptiste jusqu'alors, André et probablement Jean l'Évangéliste, son compagnon, se mettent à la suite de Jésus parce qu'ils ont vu là celui que Jean-Baptiste désigne comme l'agneau de Dieu. Ça, ça les a frappés, cette dimension sacrificielle, humble, de serviteur souffrant. Ils avaient déjà vu un petit peu une préfiguration de cela dans leur maître, Jean le Baptiste. Y a-t-il plus offert, y a-t-il plus souffrant que celui qui est allé sacrifier sa vie au désert, renoncer à tous les honneurs, il était fils de prêtre, je vous rappelle, tout de même, il n'a pas du tout revendiqué ce titre-là, très glorieux en Israël, il est allé s'enfouir au désert, mangeant des sauterelles, quelques rayons de miel par-ci par-là, parce que quand même il était un peu gourmand, et puis le portrait, vous le connaissez comme moi, parce qu'à chaque Jean-Baptiste, vous y avez droit, ou pendant le temps de l'Avent, où il est l'une des deux grandes figures avec la Vierge Marie. Enfin bon, ils ont été attirés par cette dimension-là, humble, de servant immolé. Et on pourrait prendre ainsi chacun des autres qui est attiré par un autre. Pierre, lui, c'est le Messie. Ça l'a attiré. Celui qui va restaurer la royauté davidique et pour un règne qui n'aura pas de fin. Parce que tous ces gens-là connaissent comme leur poche l'Écriture. Ils ont beau être pêcheurs du lac de Tibériade, ils ont beau être, depuis l'enfance, ils sont versés dans les saintes lettres, et ils connaissent très bien tous ces titres-là. Donc ça teinte à leurs oreilles, et ça n'est pas reçu dans un sol totalement vierge. Voilà. Ça, je trouve très, très touchant ce texte-là, parce que ça nous indique la voie pour nous-mêmes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a à s'approcher du mystère de Jésus, mais chacun le fera selon son tempérament propre, selon ses attentes, selon sa culture, voyez, selon ce à quoi il est sensible. Et ça, c'est tout à fait merveilleux. Ça rejoint ce que je vous disais la dernière fois, quoi, à cette question qu'universellement Jésus adresse à travers les âges à toute l'humanité, c'est-à-dire à chaque être humain en particulier. Pour vous, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis pour toi? Qui suis-je? Qu'est-ce qui te plaît en moi? Qu'est-ce qui t'attire? Et à quel titre vas-tu être sensible au point de tout quitter pour me suivre? Alors, pas d'inquiétude, je ne suis pas en train de vous inviter à quitter femme et enfant, ça appartient à quelques-uns, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Quand est-ce que tu vas décider de te mettre résolument à ma suite, une bonne fois? Selon quel titre, dis-moi? Et c'est parce que les auteurs du Nouveau Testament ont chacun fait cette expérience d'une approche personnelle du mystère de Jésus-Christ. C'est aussi parce qu'ils savent que tout être humain est appelé à entrer par une porte différente qui lui plaît vers ce même mystère de Jésus, que dans leur façon de rendre compte de Jésus, dans les livres qu'ils vont écrire pour les placer dans ce qu'on appellera le Nouveau Testament, ils vont le faire chacun selon une modalité singulière. Et c'est merveilleux qu'on ait ainsi quatre évangiles et pas un seul. Vous savez qu'il y a cette tentation récurrente au cours des âges, mais ça date de l'aube du christianisme, de faire un évangile, enfin les quatre évangiles en un. Alors c'est intéressant au plan de l'étude, ça permet de resituer les événements de la vie du Christ selon une chronologie linéaire, ça permet, bon très bien, mais en fait on bousille par là la spécificité de chacun des évangiles, les quatre regards différents porté par les quatre évangélistes, qui nous enseignent des choses complémentaires. Quel dommage de casser ça en faisant une espèce de compendium plus ou moins réussi du reste. Voilà. Alors, bon, il y a quand même des pères de l'Église qui ont fait ce travail, donc je mesure mes mots, et je ne voudrais pas un jour avoir à rendre compte devant eux si vraiment ça a été inspiré de Dieu, si vous voulez. Bon, vous priez pour moi dès la sortie de cette séance pour qu'il ne m'arrive pas des choses un peu contrariantes. Voilà. Notez qu'il y a peut-être d'autres motifs pour lesquels il m'arrivera des choses qu'on pourrait. Alors, c'est pas une confession publique. Vous voyez donc, c'est vraiment, je crois, ce qui rend nécessaire le fait d'aller regarder dans chaque évangile en propre ce qui est dit de Jésus. Et de dire aussi quelques mots tout de même sur chacun des évangélistes pour pouvoir mieux comprendre la teneur des informations qu'ils nous livrent, de la révélation dont ils sont les vecteurs. Je commence évidemment je prends l'ordre de classification traditionnelle des évangiles. Saint Matthieu, Matthieu, alors Saint-Irénée, vous savez que Saint-Irénée, enfin, vous le savez peut-être par ailleurs, mais je l'ai répété plusieurs fois, Saint-Irénée de Lyon, donc, c'est le petit-fils de Saint-Jean. Il a été consacré par Saint-Polycarpe et enseigné par lui, et Saint-Polycarpe est l'un des préférés de Saint-Jean, l'évangéliste. Bon, donc, il est un peu instruit, si vous voulez, sur la façon dont les choses se sont produites au commencement, et sur qui est qui. Et dans son livre « Contre les hérétiques, Adversus Hereses », il a, qui est son maître livre, qui lui a valu d'ailleurs le doctorat, enfin. Il y a des docteurs, des doctorants parmi vous qui se lamentent d'avoir attendu tant et tant d'années. Alors lui, il a attendu 19 siècles pour pouvoir accéder, tout père de l'Église qu'il était, voilà, à ce grade-là. Bon, la petite Thérèse a attendu moins que lui. Ça calme. Vous voyez, bon, enfin, je pense qu'il s'en est réjoui. Mais... Bon, donc Saint-Irénée nous apprend que l'évangile de Matthieu a été rédigé chez les Hébreux, enfin publié chez les Hébreux, dans leur propre langue. En peu de mots, il en dit beaucoup. C'est-à-dire que Matthieu s'adresse principalement aux Hébreux, aux Juifs, à ceux du christianisme, nouvellement venu par définition, parce que le christianisme est une chose toute récente, qui préalablement sont passés par la case juive. Enfin, la case juive, c'est un peu bizarre, comme... enfin, voilà, par la condition ou la religion juive. Et du coup, on ne s'étonne pas qu'il ait insisté dans son évangile sur l'enracinement de Jésus, de sa personne, de son agir dans l'Ancienne Alliance. Il va vraiment y insister à temps et à contre-temps. Ça donne vraiment à son évangile une tonalité extrêmement juive. Dès le premier verset de son évangile, il présente d'emblée Jésus comme, je cite, « le fils de David et fils d'Abraham ». Ça, c'est les lettres de créance, soir, pour se présenter devant les Juifs, un Juif un peu digne de ce nom. Rien de tel pour avoir l'aval de ce Juif que de dire « je suis descendant de David et d'Abraham ». Sinon, on peut discuter. Voilà. Alors, c'est... Voilà. Et puis ensuite, il égrène, si je puis dire, la généalogie de Jésus dès le début, hein, dès les versets qui suivent, mettant en exergue, à la différence de l'autre généalogie qui est présente dans l'évangile de Luc, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, on verra si vous êtes sage ou si vous êtes encore vivant, il insiste, Matthieu, qui parle à des Juifs, sur les rois qui jalonne cet arbre généalogique. Voilà, ça fait la gloire, se dit-il, de Jésus, et ça le crédite auprès d'Israël. Il est non seulement descendant de David, descendant d'Abraham, mais attendez voir un peu, tic-tac-tac. Alors lui, il a 50 000 quartiers, hein, voilà, les aristos parmi vous, laissez tomber, on ne tient pas la concurrence. Alors, je dis avec beaucoup d'amitié, c'est pas du tout, ouais. Donc il n'est pas une goutte de sang bleu, je suis très jaloux. Voilà. Et alors, dans le sermon sur la montagne, qui suit, vous savez, c'est au début de l'évangile de Matthieu, les chapitres 5 à 7, dans lequel Jésus, en somme, édicte la loi nouvelle, voilà, les conditions pour être son disciple. Autant vous dire qu'il n'a pas dû avoir un succès absolu sur le moment, mais bon, parce que, ouvrez donc le sermon sur la montagne, et puis ça commence par les béatitudes. Comme ça, d'emblée, ça cadre un peu le décor. Voilà, bienheureux ceux qui en bavent, quoi. Bon. Et puis ensuite, tac, tac. Et dans le sermon sur la montagne, qui est propre à Saint Matthieu, qui s'adresse aux Juifs, eh bien, il n'est pas étonnant que Jésus fasse d'innombrables allusions à la loi de Moïse. Qu'il se revendique lui-même comme étant celui qui va porter la loi de Moïse à son accomplissement. Vous connaissez ces formules par cœur, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, enfin, voilà qui rassure un juif, forcément. Ah ben, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est nul. Imaginez si Jésus avait dit ça. Non, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant est agréé par Dieu. Je viens juste accomplir. T'inquiète, on ne va rien abolir. Enfin, ça, c'est un peu pour endormir le client, si je puis dire. Parce qu'ensuite, les anciens vous ont dit que, moi, je vous dis que. Et puis, alors, il faut voir dans quel... de quelle manière Jésus fait de la muscu, enfin des étirements plutôt, avec la loi de Moïse. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis on frappe sur une joue, tendez l'autre. Voilà, ça commence à coincer. C'est bien parce qu'on a lu la généalogie préalablement qu'on est prêt à porter crédit à cet homme-là. Vous comprenez, il vient d'une telle souche, il ne peut pas sortir de sa bouche que les falaises. Voilà. Et puis, voilà, on vous a dit, si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Quelqu'un te demande de faire 10 pas avec lui, fais-en 100. Enfin, c'est à peu près ça. C'est en permanence, si vous voulez, un élargissement du spectre des obligations de la loi mosaïque. Il veut aller plus loin, c'est la loi de la magnanimité. Mais il n'empêche que Jésus l'inscrit dans la loi mosaïque comme son fondement. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu élargir, vous pourriez dire. Voilà. Et alors, une exégète bien connue de ceux qui étaient là les années passées, sœur Jeanne d'Arc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette dame-là, mais non, apparemment pas. Bon, c'est bien la peine que je me creuse pour vous trouver des auteurs. Alors, sœur Jeanne d'Arc, j'avais dit qu'il ne fallait pas la confondre avec sainte Jeanne d'Arc, ça rappelle quelque chose? Bon. Elle est moins douée, ou du moins, elle a vieilli avant que d'accéder à la même sagesse que la petite Jeanne, mais elle est très pertinente. Quand elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Les Évangiles », tout simplement. En fait, elle a fait une nouvelle traduction des Évangiles, gréée de commentaires tout à fait intéressants. Et, enfin, je trouve, je sais pas. Et dans, parmi ces commentaires, elle relève que le plan de l'Évangile de saint Matthieu est parallèle au plan global de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence avec la Genèse, Matthieu commence avec la Genèse, la généalogie de Jésus. Luc, lui, sa généalogie, il la met plus tard. Donc Genèse, Genèse. Ensuite, vient l'Exode dans l'Ancien Testament. Eh bien, dans l'Évangile de Matthieu, c'est Jésus qui passe à travers l'eau, dans le baptême, puis reste 40 jours, tient donc, au désert pour être tenté, sans boire ni manger, qui rappelle évidemment les 40 ans d'exode du peuple élu au désert. Il résiste aux tentations, tandis que le peuple, lui, au cours de ses 40 ans d'exode, a largement failli. Voilà, il est le vrai Moïse. Il va annoncer la loi nouvelle du haut de la montagne. Comme Moïse était redescendu du Sinaï en plein exode, au début de l'exode, pourvu les 10 commandements, etc. Et puis ensuite, vient, en parallèle au Lévitique de l'Ancien Testament, vient le choix par Jésus de ses apôtres, la construction de l'architectonique, si vous voulez, du nouveau peuple élu. Voilà, le Lévitique, c'était l'institution des prêtres qui administraient le peuple ancien. Jésus, lui, il élabore un nouveau sacerdoce, une nouvelle manière d'ordonner la communauté. Avec une égalité, bien qu'il y ait des prêtres, il a choisi des apôtres, bien qu'il y ait des disciples, 70 ou 72, ce qui est nouveau dans le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est que par le baptême, tous sont égaux. Voilà. Ça, ce n'était pas exactement le cas selon les données du Lévitique. Et puis ensuite, comme il y a le Deutéronome dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il y a la prédication par Jésus de toutes les normes qui vont régir le peuple élu, la façon dont on vit comme chrétien. Le Deutéronome expliquait dans le moindre détail, c'est d'ailleurs assez soporifique, comment il fallait être un bon juif. Jésus, lui, à cet endroit du Nouveau Testament, de l'Évangile de Matthieu, va expliquer comment on vit en bon chrétien. Et puis vient Josué, qui, vous savez, dans l'Ancien Testament, Josué est celui qui succède à Moïse, qui a le privilège de faire entrer le peuple élu enfin en Terre Sainte au terme des 40 ans d'Exode. Eh bien, Jésus, qui est le nouveau Josué, va passer le Jourdain, aller à Jéricho, cette ville qui a, vous savez, dont on a fait tomber les murailles dans l'Ancienne Alliance, aussitôt après être entré au Pout, en entrant en Terre Sainte, après avoir traversé le Jourdain sous la houlette de Josué. Dans le Nouveau Testament, Jésus passe par le Jourdain, entre à Jéricho et accomplit des miracles. Et enfin, l'Ancien Testament s'achève avec les prophètes. Eh bien, Jésus, lui, va par sa passion, sa mort et sa résurrection, au moment de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, prophétiser sur ce qui va advenir. Bon, c'était un peu dur pour un mardi soir, tout ce que je viens de vous dire. Il y aura tout par écrit. Vous avez vu que j'ai tenu parole. Bon, non, peut-être pas, d'ailleurs. Bon, le premier topo est en ligne, écrit et audio, s'il vous plaît. Voilà, donc ce soir, je ferai la même chose. Matthieu, donc, celui qui est typiquement juif, qui parle aux juifs. Voilà. Il faut faire un tour par Saint-Marc. Saint-Marc, lui, est un juif aussi, qui est venu au christianisme, bien sûr, mais qui est venu par, semble-t-il, la médiation de l'apôtre Saint-Paul. Il accompagne Saint-Paul au cours de son premier voyage missionnaire. Après quoi, les choses se gâtent, il lâche Saint-Paul, en fait, en plein milieu du premier voyage, et ça va lui valoir une colère, comme Saint-Paul sait en déployer à l'égard de ceux qui sont sur son chemin, même quand il s'appelle Pierre, voilà. Et donc, il va se mettre à l'école d'un autre apôtre, sans trop de surprise, Saint-Pierre. Voilà. Il s'éloigne un peu de Saint-Paul qui pique trop, et il se rapproche de Saint-Pierre, qui est plus placide, peut-être, j'en sais rien, enfin, quoi qu'il est assez bouillonnant, le Pierre, et il va le suivre jusqu'à Rome, où il sera une sorte de secrétaire, un confident, un secrétaire, enfin, comme vous voulez, un disciple, quoi qu'il en soit. Il sera tellement proche de Saint-Pierre que celui-ci l'appellera dans sa première épître « mon fils ». C'est vous dire. Voilà, donc, Marc est le bien-aimé de Simon-Pierre, il est son héritier, quoi, en quelque sorte. Et alors, Saint-Irénée de Lyon, que j'ai évoqué tout à l'heure, Eusèbe de Césarée, un historien qui est à la charnière du 3e, 4e siècle, qui fait autorité jusqu'à maintenant dans l'Église, c'est une des rares sources historique qu'on ait, qui nous renseigne sur l'aube du christianisme, les deux, donc Irénée et Eusèbe de Césarée, enseignent que Marc s'est vu confier par les Romains, les chrétiens de Rome, la rédaction de l'essentiel, enfin plutôt la mise par écrit, de l'essentiel de la prédication de son maître Pierre. Voilà. Il voyait bien que la vie, les jours de Pierre étaient compromis. Sans doute que Pierre n'avait pas trop de talent scripturaire. Ils se sont dit, tiens, mais là, il y a un type pas trop bête qui est toujours à sa remorque, à ses basques. Il fera l'affaire. On va lui demander de rédiger un évangile qui collectera l'essentiel de la prédication de Pierre. Eusèbe va jusqu'à rapporter, l'historien de l'Église, là, que je vous ai évoqué tout à l'heure, que Pierre n'aurait pas eu vent du travail qui avait été demandé à son disciple, peut-être qu'on voulait ménager l'humilité de Saint-Pierre, on ne sait rien, il n'a pas eu vent de cela, et lorsqu'il a eu le résultat entre les mains, il a acquiescé, il a adoubé en quelque sorte cet évangile rédigé par Marc. Certains disent du coup que l'évangile de Marc est en quelque sorte l'évangile de Pierre. Bon, c'est un raccourci qui n'est pas très opportun, mais vous voyez, donc vous ouvrez... Si vous trouvez que c'est dommage qu'il n'y ait pas l'évangile quand même du premier des papes, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Il y a des épîtres, mais bon, voilà. C'est quand même pas grand-chose par rapport à l'évangile. Eh bien, vous allez ouvrir Marc, et là, vous avez le son et l'image quant à la prédication de Pierre. Marc adresse son évangile en premier lieu, donc aux Romains, mais vous savez qu'aux Romains, il y avait une forte diaspora. Il y avait une diaspora juive. Mais lui, il s'adresse à cet embryon de christianisme qui a été implanté à Rome par Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, des néophytes qui viennent du paganisme. Il s'adresse à des rudes, des gens qui n'ont pas une culture religieuse très approfondie, à la différence de l'auditoire de Saint-Matthieu, qui était depuis longtemps pétri de la loi de Moïse, pétri des prophéties de l'Ancienne Alliance. Là, Marc, il parle aux rudes, voilà. Aux bourrins, qui viennent du paganisme, qui soit sont déjà baptisés, soit hésitent un peu à le faire. Voilà. Il faut un récit qui soit efficace. Donc, il écrit quelque chose de très épuré. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de comparer la taille des évangiles. Celui de Marc est décidément extrêmement bref. C'est d'ailleurs celui qu'on recommande aux catéchumènes, par exemple. On hésite avec Saint-Luc, mais Marc, c'est bien. C'est court, c'est efficace. Voilà. Il fait, cet évangile, économie de toutes les références à l'Ancien Testament, comme le faisait, contrairement à ce que faisait saint Matthieu, toutes les références à la loi de Moïse, puis hop, exit. Il n'insiste pas sur la mission spéciale du Christ auprès des Juifs. On s'en fout, on parle à des païens. Enfin, on s'en fout pas, c'est pas comme ça qu'il résonne, mais voilà. Il ressent le besoin d'expliquer à son lectorat des coutumes, mais le béaba des coutumes rituelles juives. Ce que Matthieu, évidemment, n'éprouve pas le besoin de faire, parce qu'il parle à des Juifs, qui appliquent ces coutumes depuis fort longtemps. Vous voyez, il utilise des expressions, alors il écrit en grec, semble-t-il, mais il utilise des expressions typiquement latines, et du latin populaire. Voilà. Il parle au peuple dans la langue du peuple. Encore une fois, il parle aux rudes. Voilà. Bref, efficace. Il n'y a pas de long discours de Jésus. Il n'y a pas non plus de longues considérations théologiques comme on en a chez saint Jean, par exemple. Pas du tout. Lui, c'est le minimum vital. Sa manière de présenter Jésus est extrêmement vivante. Elle est même bouillonnante. C'est à cela d'ailleurs qu'on reconnaît qu'il est un digne disciple de Saint-Pierre, le bouillonnant Saint-Pierre. J'ai dit Placide tout à l'heure, il a dû rigoler là-haut quand même. Celui qui tire le glaive aussi vite, qui a envie de mettre des tartes, bon. Mais bon, maintenant ça va beaucoup mieux. Il s'est soigné, je pense que voilà. Enfin, il va peut-être m'en mettre une, mais ça c'est autre chose. Bon, donc voilà, il présente donc encore une fois de manière extrêmement vivante, extrêmement. D'une manière récurrente dans son évangile, ça en devient même un peu sopo. Il utilise l'adverbe « aussitôt », « statim », « aussitôt », « aussitôt », « aussitôt », « aussitôt ils allèrent là », « aussitôt ils allèrent là ». Non mais t'as la bougeotte, quoi. C'est une mise en scène, évidemment. Jésus ne vivant pas au XXIe siècle, il n'était pas là à 200 à l'heure. On prend un saut de temps. Enfin, sinon, il ne parlait pas avec l'accent, il parlait plutôt comme ça, mais bon. On a le temps, quoi, voilà. Donc, vivant, bouillonnant, je cite... Un commentateur contemporain, peu importe son nom, si ça vous intéresse, vous aurez le... Parce qu'il a écrit un beau commentaire de l'évangile de Marc. Il sera sur le papier, en ligne. Marc, dit-il, est un conteur populaire dont le style imagé nous décrit non pas un Jésus hiératique, sublime, sous-entendu un peu comme saint Jean, c'est pas un reproche, hein, mais chacun son style, mais profondément humain, proche de la vie concrète des hommes. Bien que n'étant pas un témoin oculaire des faits qu'il rapporte, Marc n'est pas un apôtre, ni même un disciple, semble-t-il. Il est un tarvenu, mis à l'école de saint Paul, lui-même tarvenu, puis de saint Pierre. Le personnage de Jésus qu'il nous décrit n'a rien perdu de sa spontanéité. C'est aussi pour ça que ça fait du bien aux catéchumènes de lire ça. Parce qu'on est loin des principes, on est loin des grandes statues baroques dont j'ai déjà dit assez de mal, alors qu'en fait j'adore, mais c'est pas grave, où le grand drapé, comme ça, vous présente des personnages amples et figés. Au contraire, là, c'est vivant. Donc on a envie de rencontrer ce bonhomme, quoi. Voilà. Il parle. Il y a aussi quelque chose qui montre qu'il parle à des rudes et qu'il faut faire vite, ou qu'il faut faire efficace. Il utilise, dès le début de son évangile, l'expression « fils de Dieu ». Bonne nouvelle ou évangile de Jésus-Christ, le fils de Dieu. Voilà. D'emblée, il enfonce un clou. Et à la fin de son évangile, on retrouve à peu près la même citation dans la bouche, hasard Balthazar, du centurion romain. Un romain qui pourrait bien provenir d'un des quartiers dans lesquels vit son lectorat. Ce romain, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, voyant Jésus déjà mort, il dit vraiment... Celui-ci était le Fils de Dieu. Donc il assène, au début de son évangile et à la fin de son évangile, qui est très bref, deux affirmations qui sont censées provoquer une secousse. ou plutôt susciter un choix urgent. Aussitôt, aussitôt, aussitôt. Il veut rapidement que le lecteur prenne position, pour ou contre. Alors moi, je te présente Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà, t'as vu le type bouillonnant et tout, voilà. Alors, pour accréditer ce Jésus-Christ et pour incliner le cœur des païens, de ceux qui en sont tout juste issus, vers Jésus et en faire des disciples, il va montrer la puissance du Christ. Mais d'une façon qui est, j'allais dire, presque caricaturale, qui me pardonne parce que le terme ne convient pas quand on parle des évangiles. Mais vous allez comprendre. Par exemple, il relate des miracles, mais comme dans une quantité que ne connaissent pas les autres évangiles. Un tiers de son évangile consiste en des récits de miracles. Un tiers. 47%, c'est-à-dire presque la moitié des 10 premiers chapitres, consiste dans le récit des miracles. Tout est condensé au début de son évangile, si vous voulez. Dans les 10 premiers chapitres, on dirait que ça fait presque 10 chapitres son truc, mais il balance 50% de récits de miracles. Pourquoi ? Pour attester de la puissance à nul autre pareil de ce Jésus-Christ qu'il est venu annoncer aux païens. Vous voyez ? Pour montrer, pour dire, voyez les gars, vos dieux là, vos divinités que vous honorez chaque soir en baisant leur statue, en mettant un peu d'encens et tout, votre empereur là, soi-disant le fils de Dieu, ils font quoi pour vous au fait? Le prince de la paix, c'est comme ça que l'empereur se faisait appeler à l'époque. C'est bien, c'est discret. Et ben moi, le Jésus que je viens vous prêcher, voilà ce qu'il a fait. Paf, paf, paf. Et vous voyez, c'est du grand spectacle. On dit, si j'étais... j'exagérais, mais c'est pas du tout mon style. Sans sombrer par trop dans la trivialité, nous sommes à Saint-Cloud, on pourrait dire quand même que, ce faisant, Saint-Marc agit un peu à la manière d'un représentant de commerce, si vous voulez. Alors, on s'entend. Qui est en train de... qui, pour persuader le chaland, est en train de montrer la supériorité évidente de son produit sur les autres. Ah, mais il y a un peu de ça, hein. Il faut se figurer ce que c'était que Rome, le carrefour des nations, quoi. C'était à l'époque une espèce d'ébullition perpétuelle où chacun venait un peu comme à Athènes, à l'Aréopage d'Athènes. Saint Paul connaîtra le même travail. C'est le marché des dieux, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Alors il se fait jeter parce qu'il commence à présenter le dieu. Vous avez même un hôtel au dieu inconnu. Vous êtes vraiment le plus pieux de tous les peuples. Ah oui, cet hôtel au dieu inconnu, moi je vais vous dire qui c'est en fait. C'est Jésus, mort et ressuscité. Vous connaissez la suite, il se prend une grosse... C'est la grosse pantalonnade de saint Paul. Ouais, d'accord. Alors, quand ils entendirent ce mot de résurrection, ils lui dirent « Ouais, on t'entendra un autre jour sur ce sujet. » Patatras, quoi. Peut-être qu'il aurait dû prendre des cours. En tout cas, Marc, lui, paf, il y va direct. « Eh, madame, monsieur, regardez dans ce que je vous propose. » Franchement, il faut se mettre à la place de ces propagandistes, de ces... Il croit dur comme fer à la nécessité de passer par le Christ, parce qu'il a bien entendu par l'environnement immédiat du Christ, qui est encore vivant, que Jésus avait dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il se dit « Mais moi, je veux qu'il y ait un maximum de gus qui soient sauvés. » Alors, voilà, j'ai utilisé tous les moyens, même légaux, comme on dit dans certains milieux, pour parvenir à mes fins, quoi. Enfin, dit de manière plus académique, vous l'aurez compris, cette manière qu'a Marc de manifester en peu de pages la puissance de ce Dieu en Jésus-Christ, infiniment supérieur à toutes les divinités païennes, vise à conforter ceux qui ont fait le choix du christianisme dans leur choix, précisément. Les chrétiens de Rome, ne l'oublions pas, ont fait l'objet, dès le début, d'une persécution. Les cas... Ils avaient le choix entre sacrifier à l'empereur ou être exécuté sous la dent des bêtes ou sous le glaive de la soldatesque. Quand ils n'étaient pas trucidés dans un coin de Rome par un juif sorti d'on ne sait où qui voulait venger l'honneur de son peuple, voilà, et pas de s'en mêler, quoi. Dans ces conditions, vous avez intérêt à avoir de sacrés arguments de la part des prédicateurs, de la part des apôtres, de la part des disciples pour tenir bon, quoi. Et donc il fallait que Marc sans cesse réinvestissent l'imagination, mais aussi l'intelligence de ces gens-là, en leur disant « Mais vous avez raison, vous avez suivi le bon champion, les gars. Allez-y, tenez bon. » Voilà. Enfin, je ne sais pas si... Bon, peut-être pas. Voilà. Troisième évangile, l'évangile de, selon saint Luc. Alors, Luc, le Nouveau Testament et la tradition nous apprennent que... enfin, plusieurs choses intéressantes, évidemment, au sujet de Luc. À la différence des trois autres évangélistes, de Matthieu, de Marc et de Jean, il est issu du paganisme. Et il est, on pense qu'il vient de Syrie, et qu'il est de culture hellénistique, culture grecque. Les autres sont des produits du peuple élu. Lui, pas. Comme le dit explicitement saint Paul dans une de ses lettres, il est médecin de son état. Mon cher médecin, comme ça qu'il l'appelle, notre cher médecin. Il y a d'ailleurs des détails, peut-être les connaissez-vous, mais qui sont assez touchants, qui attestent qu'on a vraisemblablement affaire à un homme de l'art. Lorsqu'il désigne une maladie, à la différence des trois autres qui vraisemblablement ne connaissent pas grand-chose, un peu comme moi, enfin votre cher Twitter, comme on dit, il utilise des termes techniques, voilà, pour désigner chaque type de maladie. Lorsqu'il décrit l'agonie du Christ au Gethsémani, c'est lui qui nous dit, et pas les autres, que de son front coule non seulement des gouttes de sueur, mais de sang, parce qu'il sait que telle est la conséquence d'un traumatisme psychologique profond. Voilà. Bon, je passe sur d'autres détails, c'est anecdotique, mais voilà. Donc, il est véritablement médecin, c'est avéré. Ça devait être un homme cultivé, comme souvent les médecins de son temps, hein, à l'époque où les disciplines... Alors, attention, s'il y a des médecins dans la salle, je ne suis pas du tout en train de vous critiquer, mais évidemment, à une époque où il y avait beaucoup moins de spécialisation dans des domaines divers et on ne se contentait pas d'approfondir dans un champ de compétences, mais où on était, le domaine de la science étant plus restreint, compétent dans plein de domaines, c'est un peu l'honnête homme avant l'heure, quoi, si vous voulez, eh bien, il n'est pas étonnant qu'on ait eu affaire à un médecin qui était en même temps probablement un érudit, ou quelqu'un qui était en tout cas pétri de lettres anciennes. Le fait, on voit bien dans les deux prologues, prologue de son évangile et prologue des Actes des Apôtres, qui est aussi imputable à saint Luc, qu'il insiste sur la documentation précise à laquelle il a eu recours. Lui, madame, il ne veut pas passer pour un gros boulet qui parlerait comme ça sans avoir vérifié ses sources. Il vérifie la documentation précise, il use, selon les spécialistes, et je laisse aux hellénistes d'entre vous distinguer le soin d'aller vérifier par vous-même, voilà, qu'il utilise une langue grecque élégante. Alors moi, ma compétence en grec s'arrêtant à l'alphabet, je ne suis pas capable de vous dire, mais il paraît qu'il est coutumier de la littérature de son temps, également, et qu'il, d'ailleurs, il en imite le style. Quand vous voyez les prologues dont je vous ai parlé à l'instant, les premiers versets de son évangile et des Actes des Apôtres, il rédige ces prologues à l'instar des prologues des grands ouvrages de la littérature classique. Il y a quelque chose d'un peu grandiloquent, expliquant d'où il parle, comme on dit à l'université depuis quelques décennies, d'où parles-tu, camarade ? Voilà, bah, c'est un peu la même chose. Il semble également, c'est pas inintéressant de le savoir, que Luc ait rencontré saint Jean, évangéliste. Oui, alors à l'époque, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas les moyens de communication qu'on sait aujourd'hui, donc il n'était pas du tout évident que tout ce monde-là se réunisse. Voilà. Or lui, il est avéré qu'il a, enfin on pense très fortement qu'il a rencontré saint Jean. Alors rencontrer saint Jean, évidemment, ça vous ouvre des horizons assez impressionnants. Souvenez-vous, par exemple, que c'est bien Jean, auteur de l'Évangile, le disciple bien-aimé, qui a recueilli chez lui la Vierge Marie. Après avoir penché sa tête sur le cœur de Jésus, avoir été le chouchou de la bande. Alors, Jean ayant non seulement été le chouchou de Jésus, mais aussi le gardien de la Vierge Marie à partir de la mort de son fils en croix, évidemment, Jean a recueilli une connaissance, d'ailleurs je vais en parler dans un instant, parlant de son évangile, qui est inégalable. Voilà. Et on pense que c'est par saint Jean que Luc a eu connaissance de tous les événements, j'en ai déjà parlé je crois la dernière fois, de la, qui ont précédé la conception du Christ et sa nativité. Les récits de l'Annonciation, de la Visitation, de la Nativité, dont Marie était l'unique témoin, en somme, subsistante, ont probablement été confiés par Marie à Jean, qui a dû en relater l'essentiel à Luc. Luc étant le seul, au début de son évangile, à relater ces événements qu'on pourrait qualifier de marial, de mario. Ça, vous suivez ou c'est un peu... Ouais, voilà. Donc il a quand même joui, vous voyez, d'un éclairage... voilà. Il est le très proche de Saint Paul. Il l'a reçu probablement de Jean, voire peut-être même, mais c'est moins sûr, directement de Marie elle-même. Mais ça, c'est un peu aventureux de le dire. Ses confidences sur ces événements quand même cruciaux du tout début de la vie humaine de Jésus. Oui, du reste, sur cette proximité d'avec Saint Paul, je ne sais pas si j'avais fait allusion à ce film que je trouve très beau personnellement, mais peut-être me détromperez-vous, qui s'appelle Paul, apôtre du Christ. C'est un film qui est sorti en 2018. Pourtant produit par des Américains, mais non mais c'est pas trop grandiloquent, c'est très beau, c'est plutôt intimiste d'ailleurs. C'est la fin de la vie de Saint Paul lorsqu'il était dans les fers à Rome et que ses chers Priscille et Aquila tenaient la communauté chrétienne à sa place. C'était ses bienfaiteurs, Priscille et Aquila. C'est des gens qu'il a probablement amenés à la foi et qu'ensuite qui l'ont suivi jusqu'à Rome et qui l'ont aidé de leur denier, mais aussi de leur temps. Et, voilà. Et dans ce film-là, alors il faudrait quand même vérifier un peu, mais c'est plausible. On voit Saint-Luc venir de l'est du bassin méditerranéen à Rome et soudoyer les gardiens de prison pour obtenir un droit de visite afin de cueillir de Saint-Paul ses ultimes recommandations et ses ultimes témoignages. C'est très beau. Ces entretiens entre Luc et Paul sont absolument bien vus. Quand bien même ce ne serait pas historiquement exactement comme ça que ça s'est passé, en tout cas ça aurait pu. Et on voit, c'est très beau de voir ce vieux Paul qui est un combattant, mais qui est en même temps travaillé par cette trahison, enfin oui, l'avant de sa conversion, quoi. Qui s'en veut, ne cesse de retourner dans sa tête ces images glauques où il persécutait des chrétiens et jusqu'à des enfants. Et on voit une petite fille qui était sous sa gouverne, ou du moins il a été lâche, il a laissé se faire lapider, et il s'en veut, et il s'en veut, et parallèlement à ça, il se sait sauvé, il est travaillé par la grâce. C'est magnifique. Et on retrouve exactement la tonalité des épîtres de saint Paul. Aux Romains, vous savez, vraiment ce que je fais, je ne comprends pas. Voilà, il observe deux lois en lui, je ne fais pas tout le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas, mais qui me délivrera de ce corps de mort ? C'est très très prégnant, c'est très poignant, ou l'aiguillon de la chair, il semblerait que ce soit ça en fait, l'aiguillon de la chair, ça c'est la thèse de l'auteur, ça n'est qu'une thèse, mais c'est pas bête. Cet aiguillon de la chair, un ange venu pour le souffleter, ce serait le regret d'avoir comme ça lapidé des innocents, quoi. C'est pas mal, je trouve. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Mais vous ne perdrez pas votre temps, vraiment, en allant regarder ce film. Voilà. Paul, apôtre du Christ. Alors, quant à la teneur, parce que là, j'ai beaucoup parlé de sa personne, trop sans doute, mais bon, après tout, ça ne fait pas de mal de. Soit une petite piqûre de rappel, soit carrément un petit parcours découverte de cet évangéliste que nous fréquentons quand même pas mal de fois dans l'année, hein, au moins le dimanche. Dante a qualifié Saint-Luc d'écrivain de la mansuétude du Christ. Donc là, je voudrais vous dire un mot de la teneur de ses écrits, plus que de sa personne, enfin après avoir vu sa personne. De fait, son évangile est vraiment celui qui met le plus en évidence la miséricorde de Dieu, qui plus que apparaît, qui rayonne de la personne de Jésus-Christ. Hein, c'est chez lui et chez lui seulement qu'on trouve des paraboles parmi les plus suaves. La parabole du fils prodigue, voilà, quand même somptueuse parabole, qui nous convainc au moins une ou deux fois l'an d'aller s'approcher de ce lieu glauque qu'on appelle le confessionnal, parce que quand on voit, surtout illustré par Rembrandt, avec tant de talent, cette parabole-là, si belle, d'un père qui attend sur le devant de sa... Il n'a rien d'autre à faire, alors que c'est un grand... Apparemment, s'il immole un bœuf pour son fils, c'est que le type a quand même des moyens, et donc un cheptel, et donc, enfin, voilà, faut faire vivre tout ça. Eh ben non, le gars, il attend sur le devant de sa baraque, en attendant, quand est-ce que son fils indigne va rentrer, quoi. Et son fils, à peine revenu, n'a même pas le temps de lui déclamer sa petite poésie qu'il avait prévue pour se faire réadopter. « Père, j'ai péché contre le... » Tais-toi, hop, apportez-lui une robe, un anneau, tac-tac, immolez le veau gras, hop. Le fils aîné, bon, hop, dehors. Donc c'est quand même magnifique, ça, hein, la mansuétude de Dieu dans la parabole du fils prodigue. La parabole tout aussi belle du bon samaritain, quand même. Ce bon samaritain-là qui, non content d'avoir donné de son temps, alors qu'il était pour affaire, nous dit-on. Les autres descendaient du temple, donc terminé le service. Lui, il est pour affaire. Le gars, il s'arrête, il le monte sur sa monture, il l'emmène à l'auberge. Il file tout ce qu'il faut pour les frais, il dit même au gars, à mon retour, quand je repasserai, si je réglerai le surplus des dépenses. Ça, bon. Donc voilà, sans doute, deux paraboles parmi les plus magnanimes, quoi. Il y a le bon pasteur, ça c'est chez Saint Jean, mais là quand même. Voilà, et puis des épisodes, ça ce sont des paraboles, mais il y a les épisodes si touchants, où l'on voit Jésus rencontrer la pécheresse pardonnée, par exemple. Ça c'est chez Saint Luc. Alors je sais... Pour ceux qui ont assisté à la conférence de Jean-Guilain Zéry, il y a quelques, pas trois semaines maintenant, quelque chose comme ça, vous y étiez tous, parce que c'était la conférence d'ouverture de l'année pastorale de la gratitude. Et Jean-Guilain, à la fin de son exposé, a évoqué deux textes, deux épisodes du Nouveau Testament qu'il nous propose de méditer pendant cette année de la gratitude. Les 10 lépreux, dont un seul revient pour remercier la gratitude, et puis la pécheresse pardonnée, qui vient mettre du nard de grand prix sur les pieds de Jésus, au vu et su de tout cet aréopage de pharisiens qui sont prêts à soit à la désirer secrètement, soit à la lyncher dès que... Et alors Jean-Guilain nous a dit, je n'aime pas trop qu'on appelle la pécheresse pardonnée, mais plutôt la reconnaissante au parfum. C'est bien vu. Donc désormais, ce sera la reconnaissante au parfum. Voilà. Autre rencontre magnifique et très suave, Zachée, le petit bonhomme qui est un gros salaud, et voilà, et Jésus le claque en deux, le meilleur des kinés, quoi. Hop, il le débloque et le gars est prêt à donner le quadruple. Voilà. Voilà, quand Jésus opère, vous voyez, le fric abonde. Je dis ça parce que. Ah, ouais. Le père Richard m'a demandé de vous. Voilà. Et puis ce dialogue de Jésus inouï sur la croix avec le bon larron. Il est fait allusion aux autres condamnés à mort dans les évangiles, dans les autres évangiles, mais pas dans ces termes, pas avec ce dialogue si beau, où le bon larron rabroue l'autre en lui disant pour nous c'est justice, et lui n'a rien fait. Et Seigneur, souviens-toi de moi, etc. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras au paradis avec moi. Donc, magnifique, là encore, et plein d'espérance. Passage propre à Saint-Luc. Saint-Luc insiste également, ça touchera particulièrement la moitié de cette assemblée, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire où je veux en venir. Sans doute, la délicatesse de Jésus à l'égard des femmes. Ça, c'est typique de Saint-Luc. La fidélité et les soins que prodiguent ces femmes en retour de cette délicatesse de Jésus à leur égard. Il ne cesse de rendre sa dignité à la femme qui est mise au banc ou qui est tenue pour rien. Vous savez que un témoignage d'homme valait deux témoignages de femme. Ça calme. En Israël, hein, c'est au terme de la loi. Donc, ouais, et ainsi de suite. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, il suffit d'ouvrir l'évangile, précisément de Saint-Luc, notamment, pour se rendre compte que, bon, Il y avait des choses à régler. Eh bien, Jésus, lui, le fait, et Luc en est le témoin ébloui et convaincant. Voilà. Et d'ailleurs, il ne s'en tient pas qu'à l'Évangile, puisque dans les Actes des Apôtres, qui est comme le tome 2, eh bien, il met là encore en évidence le rôle fondamental des femmes dans la communauté primitive, le christianisme du commencement. Il évoque d'ailleurs la mère d'un certain Jean-Marc, figurez-vous que c'est la tradition a reconnu là l'autre évangéliste Marc, qui hébergeait Pierre et ses compagnons lorsqu'il n'était plus question d'aller au Cénacle. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Le rôle fondamental des femmes. Quoi. Peut-être qu'il faudrait aller regarder par là pour, dans cette période de houleuse, de. Voilà, tout ça. Où on s'interroge sur la place des femmes dans l'Église, qui est tout à fait légitime et noble, mais c'est bien d'aller regarder aux sources, surtout, je pense. Voilà. Plutôt que sur des modèles extérieurs. Enfin, voilà. Et alors, on peut penser, du reste, si Saint-Luc insiste tant et tant sur la miséricorde du Seigneur Jésus, enfin de Dieu dans le Seigneur, dans la personne de Jésus, on peut penser que c'est la tendre miséricorde de Dieu qui a fait fondre le cœur de Saint-Luc et qui lui a fait quitter le paganisme pour le christianisme, sans doute. Il paraît très concerné par ce qu'il dit, quoi. Voilà. C'est à mettre en balance, évidemment, avec les divinités païennes qu'il honorait préalablement et qui sont pas connues pour être particulièrement miséricordieuses et suaves, quoi. Voilà. Donc, sans doute que c'est par ce même attribut du Christ, la miséricorde, que saint Paul entend, parmi son auditoire, rallier ceux qui sont encore des païens, quoi. Il s'adresse, on sait, Marc, lui, on sait qu'il s'adresse à ceux qui viennent du paganisme. Luc, c'est pas sûr, mais ça porte quand même. Il y a dans son contenu, le contenu de son évangile, des actes, des choses très percutantes pour un païen. Par ailleurs, Luc montre dans son évangile à plusieurs reprises que le royaume est ouvert également aux nations, c'est-à-dire aux non-juifs. Et dès le début, dans la prophétie de Siméon au temple, lorsque le vieillard Siméon recueille l'enfant Jésus, que dit-il de lui ? Lumière pour éclairer les nations. Les nations, on le sait, par opposition à la nation, ce sont les païens. Et puis, à la fin de l'évangile de Luc, dans les dernières instructions que Jésus donne à ses apôtres, voilà ce qu'il dit. Il est écrit, ça c'est Jésus qui parle, qu'au nom du Christ, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à tous les peuples. Il y a une dimension universelle chez saint Luc qui apparaît moins dans les autres évangiles. Qui apparaît, tout de même, attention. Allez de tous les peuples, faites des disciples, les autres évangélistes le disent, mais c'est plus net chez saint Luc. Forcément, il y est sensible. Lui qui vient du paganisme est la preuve incarnée, si je puis dire, qu'il y a place dans le salut pour ceux qui viennent du paganisme. Et puis, du reste, tout au long de son évangile, Jésus loue la qualité de cœur d'un certain nombre de païens. Voilà. Le centurion, mais d'autres encore. Voilà. Il faut que je vous dise un mot quand même de l'évangile, je sais que l'heure tourne, mais de l'évangile selon saint Jean, parce que il y a trop peu de séances pour que je puisse m'étendre comme ça davantage. Jean, alors je ne vais pas du tout entrer dans le débat qui a cours depuis un bout de temps maintenant, sur l'identité de Jean, auteur du quatrième évangile, des trois épîtres qui portent son nom, et de l'Apocalypse. S'agit-il ou pas de l'apôtre, fils de Zébédée avec son frère Jacques, ou pas? Tadam, mystère. Là encore, je peux vous mettre en annexe. Oui, Marc m'a appris qu'il fallait être un peu VRP, donc... Mais le VRP, normalement, il tient ses troncs. On dit plus VRP, je sais. Il était un commercial, ça comme vous voulez, ingénieur commercial. Voilà. Bon, en tout cas, il faut que je tienne mes promesses. Mais le truc est tout prêt, clé en main. Sur ce mystère de la personne de Jean. Voilà. Mais peu importe, c'est pas décisif, de toute façon, pour ce soir. Ce qui est certain, c'est que l'auteur nommé Jean, celui qui a écrit l'Évangile, les trois épîtres et l'Apocalypse, à une connaissance très solide de l'Ancien Testament, mais vraiment très solide, et de la liturgie juive. L'ensemble de son œuvre est d'ailleurs présenté sous forme d'une liturgie. C'est dans les épîtres, c'est pas trop le cas en fait, c'est plutôt les deux gros ouvrages, l'Évangile et l'Apocalypse, c'est le cas. Je vous fais grâce du détail, prenez-le pour argent comptant, voilà. Probablement, enfin c'est ce qu'on en a déduit, appartenait-il à la caste sacerdotale. Rien n'empêche qu'il ait été l'apôtre en même temps et pêcheur du lac de Tibériade, mais ça c'est mon avis. Bon. Et donc, il a non seulement une connaissance profonde de l'Ancien Testament et de la liturgie juive, mais une connaissance encore plus grande du mystère de Jésus-Christ. D'où le fait qu'on le présente, là c'est vraiment du béaba, sous les traits de l'aigle. Voilà. Et ce, depuis l'Antiquité. Rien d'étonnant, vous le savez, on l'a dit, c'est le disciple bien-aimé. On ne sait pas si c'est l'apôtre, mettons qu'on ne sait pas si c'est l'apôtre, mais en tout cas, c'est le disciple bien-aimé, c'est comme ça qu'il se désigne lui-même. C'est lui qui se met en scène sur le corps de Jésus, au pied de la croix, recueillant la Vierge Marie, etc. D'autre part, son acuité ou sa connaissance profonde du mystère de Jésus-Christ tient par ailleurs au fait qu'il a vécu plus vieux que tous les autres évangélistes. Il a eu, par surcroît, et du fait qu'il ait vécu plus vieux, accès sans aucun doute aux trois autres évangiles, dans lesquels il a pu puiser matière à méditer. Vous voyez, des regards divers du sien sur la personne de Jésus. C'est toujours, même si on est un érudit, c'est toujours bon à prendre. Et puis il a été gratifié, ce sont ses propres dires dans le livre de l'Apocalypse, il a été gratifié sur l'île de Patmos d'une vision. Et soudain je vis. Alors une vision puissante et semble-t-il durable, qui a débouché justement sur le livre de l'Apocalypse, qu'il consigne dans le livre de l'Apocalypse. Vision évidemment énigmatique, avec toutes ces choses-là, les 144 000 élus, on a eu ce passage-là le jour de la Toussaint, les cavaliers de l'Apocalypse, les 24 vieillards, les vivants, les 12 mondes, enfin tout ça, c'est une véritable cinécénie. Voilà, on n'a rien inventé en Vendée, hein, il a confessé ça bien avant, voilà. Je ne dis pas non plus, c'est très bien. Bon. Les trois autres évangiles portent le nom de synoptique. Vous savez pourquoi, hein? Synoptique, ça vient du grec, qui se traduit par d'un même regard. Quand vous mettez dans les colonnes parallèles les trois autres évangiles, Jean à part, vous vous rendez compte qu'il y a la même structure chronologique et de très nombreux passages communs de l'un à l'autre. Ce n'est pas du tout le cas pour Jean. Jean, on ne peut rien en faire. Enfin, on ne peut pas le mettre en parallèle avec les autres. Il est trop singulier. Sa structure est distincte, il a une manière de présenter les événements de la vie du Christ qui est très différente des autres évangélistes, c'est même troublant. Parce que du coup, on se dit, mais le bloc des synoptiques et Jean ne peuvent pas avoir raison simultanément. Ouais, en fait, quand on approfondit un peu, on se rend compte que c'est tout à fait cohérent. Mais il faut un peu travailler. Vous voyez, quelques exemples pour montrer les différences. Les synoptiques, c'est très grossier, c'est très simple, présentent la vie du Christ, la vie publique du Christ, articulée sur un an. Un an seulement. Alors que Jean, lui, il les distribue sur trois ans, les événements de la vie publique de Jésus. C'est quand même bizarre. Les synoptiques évoque 29 miracles. On s'en fout du chiffre, hein, ça, du nombre, c'est pas le... Mais c'est pour vous montrer le clivage avec Jean. Jean, parmi les 29 miracles que les autres s'accordent à raconter, il n'en reprend que deux. C'est quand même bizarre. Et il y ajoute cinq autres venus de nulle part. Enfin, en tout cas, pas venus des synoptiques. Oubliez ces questions de chiffres, de nombres, c'est le ratio qui est intéressant. D'où ça sort? Il y a sept miracles en tout et pour tout dans l'évangile de Jean. Sept, évidemment, chiffre éminemment symbolique. Jean est le plus symbolique de tous les évangiles. Voilà. D'autre part, les éléments, mais des éléments parmi les plus fondamentaux de la vie de Jésus, ne sont pas relatés par Jean. J'ai nommé le baptême de Jésus, ça commence mal, la transfiguration, pardon du peu, le récit de l'institution de l'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi, Jean, t'as pas, non ? Enfin, vous voyez, des choses quand même sont absolument fondamentales, quoi. Eh bien, lui, non. Les tentations au désert, pas non plus. On a l'impression qu'il nous présente un Jésus un petit peu revu et corrigé. Alors, qu'à cela ne tienne, quand on scrute un peu l'évangile de Jean en profondeur, on se rend compte que tout y est, mais d'une manière différente. Je vous l'ai déjà dit probablement, oui, j'en suis sûr. L'institution de l'Eucharistie, en fait, on le retrouve chez saint Jean sous la forme du discours de pain de vie. « Je suis le pain vivant descendu du ciel qui mange ma chair et boit mon sang. » Donc on y est, c'est bien ça. La transfiguration, elle n'a pas lieu en tant que telle, avec Jésus sur le mont Tabor, entouré de Moïse, Élie et les trois disciples préférés devant lui. C'est la passion et la mort du Christ en croix, où paradoxalement, Jésus est exalté comme le roi de l'univers, couronné d'épines, le cœur transpercé, fécond, les bras grands ouverts, c'est lui, c'est bien lui-même que le Jésus du mont Tabor, mais présenté d'une autre manière. Vous voyez ? Donc il n'y a pas de contradiction, en fait, sinon apparente, entre les synoptiques d'un côté et Jean de l'autre. C'est heureux. Les autres évangiles, et c'est vraiment c'est le point le plus... C'est le dernier point, on va dire. Ça va durer 15 bonnes minutes, non. C'est que les autres évangiles partent, ils font de la christologie, de la théologie d'en bas, on dit. C'est-à-dire, ils partent de Jésus pris dans son existence terrestre, tel qu'on le voit, voilà, tel qu'on vit dans son entourage, voilà. Et puis, petit à petit, ils nous mènent plus ou moins vite à entrer plus avant dans le mystère de ce Jésus de Nazareth. Ça va ? Jean, lui, il part d'en haut. Christologie d'en haut. Christologie descendante. C'est assez... son prologue est tout à fait emblématique à cet égard. Au commencement, c'est le début de l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Puis ensuite, et par lui tout a été fait, la lumière est venue dans ce monde-là, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Vous voyez, mais il commence d'en haut. Voilà. Il prend ce risque, hein, parce que c'en est un. Mais en fait, il insiste, il veut tambouriner en levant le regard de son auditoire, en somme, vers la divinité, vers l'origine, vers la source de ce Jésus-Christ qu'il est venu annoncer et à qui il propose d'adhérer. C'est d'ailleurs dans l'évangile de Jean, donc théologie d'en haut, christologie d'en haut, que Jésus manifeste les prétentions les plus prétentieuses, les prétentions divines les plus explicites. Vous savez, il y a tous ces « je suis ». Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la résurrection, je suis... il n'arrête pas de dire « je suis machin ». Voilà, c'est ce qu'on appelle des « je suis » relatifs. Et puis il y a des « je suis » absolus. C'est déjà... C'est très solennel, hein, les « je suis la voie, la vérité, la vie, la porte, je suis le bon pasteur ». C'est « je », quoi, il n'y en a pas d'autre. Cherchez pas ailleurs, les gars, ça ne tient pas. Mais là où ça devient encore plus éclatant, et là où ça devient encore plus explicite, sa prétention à la divinité, c'est lorsqu'il dit « je suis » tout court, quand il ajoute rien. Il dit « je suis » dans l'évangile, au 8e chapitre de Jean, vous relirez si ça vous plaît, 8e de Jean, 3 fois, Jésus dit « je suis ». Tranquillou, il est en train de reprendre l'affirmation du buisson ardent que vous connaissez bien, Exode 3,14, Dieu qui dit à Moïse « Je suis celui qui suis, point. » Il n'y a rien à ajouter. Sous-entendu, tu es celui qui n'est pas, quoi. Voilà. Bah non, mais c'est ce qu'il dit à Sainte Catherine de Sienne, quand même, en même temps. Donc, pour bien lui faire comprendre que toutes les merveilles qu'elle fera ou qui sortiront de sa bouche ne viennent pas d'elle. Hein, voilà. Donc, cocotte, qu'on se calme. Ça s'appelle des « je suis absolus ». Il dit « si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés ». Non mais il faut imaginer l'effet bœuf sur l'auditoire de l'époque. Des scribes, des pharisiens, des gars qui connaissent parfaitement l'Écriture. Il a dit quoi ? En fait, il a prononcé le nom très saint de Yahvé. C'est tout. Mais t'es malade ou quoi ? Et avec le grand prêtre qui peut le faire, une fois l'an, et encore tout seul dans le sein des saints comme un grand, voilà. Ben non, ben lui en avant, et puis il répète des fois qu'ils n'auraient pas entendu ou pas bien saisi, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. » Deuxième coup de canon. Puis comme ça ne suffisait pas, parce que les gars mettent du temps à ramasser les pierres, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors là, vous connaissiez la tirade du nez, de Cyrano, eh ben il y a la tirade de « Je suis », de Jésus. Je peux vous dire que ça tabasse quand même. Hein. Non mais il faut quand même oser. Et Jean, qui vous relate ça tranquillement, devant un auditoire juif notamment. Enfin, voilà. Alors, cette théologie par en haut comportait, si je puis dire, un risque. C'est-à-dire, exalter la divinité de Jésus pour montrer d'où il venait, puis sa supériorité, et voilà, son immensité, c'était prendre le risque qu'on s'en tienne là. Et des lecteurs de l'évangile de Jean, des tout premiers temps, ont du coup tiré cette conclusion complètement fausse que Jésus n'était que Dieu et qu'il avait fait semblant d'être un être humain. Vous savez, ce qu'on appelle le gnosticisme ou le docétisme, on y reviendra quand on parlera des hérésies. Ça, c'est terrible. Ils ont dit oui, bah, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, je suis, je suis, je suis, on a compris la tirade du je suis, parfait. Bon, alors tout le reste n'est que apparence, n'est que pédagogie, pour pas dire baliverne, non, parce que quand même, si Jésus est Dieu, il a fait semblant d'être un être humain, de dormir, de manger, en fait, pas du tout. C'était purement pédagogique, franchement, c'était de l'ordre de l'hologramme, pour donner des petites leçons sur comment fallait se conduire quand on a faim, quand on a soif, voilà. Ah mais redoutable. Il a fallu, figurez-vous, que Jean, apprenant cela, compense ce risque en rédigeant sa première épître, qui commence très clairement par un cliquet d'arrêt à cette folie de considérer que Jésus n'était que Dieu et une apparence d'être humain, puisqu'il commence son épître, la première épître, en des termes qui ne laissent aucun doute, ce qui était au commencement, pardon, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous en témoignons, etc. Vous voyez ? Vous avez bien compris, les gars ? Il était vraiment homme, il était vraiment Dieu, je l'ai dit dans l'Évangile. J'ai dit d'ailleurs aussi qu'il était homme, hein. Et le Verbe s'est fait chair, vous n'avez pas compris ça, quoi. Mais puisque vous avez l'oreille dure, clac, je vous enfonce encore une épître dans l'oreille, et je vous dis, j'ai touché le Verbe de vie. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, il n'y a pas à tortiller. C'était donc un être humain. Voilà. Voilà, ça c'est assez touchant de voir que, même de son vivant, Jean a eu à faire face à une erreur sur laquelle nous reviendrons. Voilà. Et puis enfin, dernier point, Jésus, le dernier du dernier, vous avez compris, enfin, c'est la fin du dernier point, du coup. Jésus se présente sans cesse dans le quatrième, dans l'évangile de Jean, comme le Fils. À telle enseigne qu'on a qualifié l'évangile de Saint Jean de l'évangile du Fils, ou, par miroir, l'évangile du Père. Parce que c'est le Fils qui est venu révéler le Père. Dans Saint Jean, mais bien plus qu'ailleurs, sans cesse, on voit Jésus qui est suspendu à la volonté de son Père. Mais il scrute la volonté de son Père tout le temps. L'heure n'est pas encore venue. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. L'heure. L'heure, c'est celle que le Père... Oui, l'heure, ça vous dit quelque chose. C'est vrai, on arrive, on a dépassé l'heure. Mais Jésus, lui, il n'a pas dépassé l'heure. L'heure qui a été décidée de toute éternité par le Père. Et c'est très touchant parce qu'on voit aussi des dialogues, et ça seulement chez Jean, ou bien plus que chez les autres. Dialogue entre, on est introduit dans l'intimité du Fils et du Père. C'est merveilleux. Quand Jésus est devant la tombe de Lazare, moment le plus douloureux sans doute, un des plus douloureux de son existence terrestre avant sa propre mort. Père, je te glorifie. Je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Voilà. Il montre là qu'il a tout pouvoir sur le cœur de son père et que Lazare va sortir du tombeau parce qu'il l'a demandé au père. Et puis à la fin de l'évangile, il y a après la scène, ce dialogue avec ses apôtres, lavement des pieds, etc., l'amour. Et puis après, il parle à son père, se tournant vers son père, il lui adresse la prière sacerdotale, monument à la fois très complexe et en même temps très beau, d'un dialogue entre le fils et le père. Qui nous est révélé par pure gratuité, qui d'entre nous mérite d'entrer dans l'intimité du Père et du Fils? Je ne sais, Dieu le sait. Mais bon, voilà. Et ce qui est très beau, et vraiment je termine la conclusion de ma dernière partie, par là, c'est que Jésus, en même temps chez Saint Jean, nous introduit dans cette relation précisément. Il n'arrête pas de pourquoi est-ce qu'il relate, pourquoi est-ce qu'il s'ouvre de ce dialogue avec son Père, ou de ses relations avec son Père, mais parce qu'il veut nous y introduire, justement. À Marie-Madeleine, devant le tombeau, qu'il a enfin reconnu après l'avoir pris pour le jardinier, que dit-il ? Ne me touche pas, hein, ou ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Magnifique. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Madeleine, t'inquiète pas, on va se retrouver bientôt. Ah, regarde. Non, on va se retrouver bientôt dans le sein du Père, quoi. Quand même, parce que je ne garde pas jalousement ma filiation par nature. Vous allez être adopté par moi au sein de la Trinité. Enfin, un truc de fou. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête parce qu'on pourrait y passer des heures, mais pas vous. Probablement. Merci beaucoup de votre attention délicate.
On va juste terminer par un jeu de salut, si vous voulez.